A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Salut à tous, très très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. Cette semaine, on vous propose d'écouter ou de réécouter le live effectué sur la chaîne YouTube de Dunk Hebdo, un live consacré au over-under mais aussi au trophée de MVP pour la saison prochaine 2021-2022. Un live où on vous expliquera, pas de soucis, ce que sont ces fameux over-under, Tom et moi-même, je profite de ce petit message d'introduction pour vous parler du DH20, notre classement annuel des 20 meilleurs joueurs de la NBA. Eh bien, une fois encore, on vous offre la possibilité de créer votre propre classement des 20 meilleurs joueurs NBA. Pour ce faire, c'est très simple, il y a un petit lien dans la description de ce podcast. Vous pouvez cliquer et ça vous amènera sur un questionnaire. Vous pouvez également trouver ce lien sur le compte Twitter de Dunk Hebdo. Alors, on a quelques petites consignes pour bien remplir ce formulaire. Ça nous aidera grandement quand il faudra rassembler tous les résultats. Alors, cette année, on aimerait avoir des réponses qui se concentrent uniquement sur le nom de famille du joueur. Par exemple, on renseigne Durant pour Kevin Durant, James pour LeBron James, Paul pour Chris Paul. Petite exception, on comprend bien évidemment que Giannis Antetokounmpo pourrait poser quelques problèmes. Donc pour Giannis, vous pouvez tout simplement enseigner Giannis. Voilà, c'est un petit détail qui nous aidera grandement. On indique aussi une petite nouveauté cette année. On avait pris le parti les années précédentes de ne pas compter les blessures. Cette année, les blessures entrent en compte. Par contre, ce qu'on ne compte pas, c'est la manière dont vous allez conditionner les blessures par rapport au classement, c'est-à-dire si selon vous c'est un facteur déterminant ou un facteur vraiment secondaire. Ça, on vous en laisse la responsabilité, vous faites comme vous voulez. C'est vraiment un classement, on insiste, on veut vraiment que les auditeurs, n'hésitent pas à mettre leurs propres opinions. Très bien. Eh bien du coup, j'espère que vous allez être très nombreux à répondre à ce DH20. Vous avez plusieurs jours, ne vous inquiétez pas pour bien réfléchir à tout ça. Nous, on va marquer la petite pause et puis on se retrouve pour donc ce live sur YouTube avec Tom et moi-même. Du coup, Tom, alors on a déjà du monde, je te propose de commencer parce qu'on s'est promis de faire aujourd'hui, c'est un peu parler des over-under. Alors, avant d'en parler, on est obligé d'expliquer parce que c'est peut-être pas quelque chose d'évident pour tout le monde. Alors, c'est quoi ces fameux over-under? Alors, chaque année, en gros, à cette période de l'année, Las Vegas va publier des cotes pour plein de choses à propos de la NBA. Et bien souvent, il y a des pronostics de bilan. On va mettre le pronostic de bilan en termes de victoire. Par exemple, je prends l'exemple des Nets. Dans les pronostics qu'on a pris, nous, ils sont annoncés à 54,5 victoires. Donc, c'est-à-dire le over-under, si je parie le over, je parie qu'ils vont gagner plus de 54,4 matchs, d'où vous comprenez donc l'importance du 0,5, parce qu'en gros, dès qu'ils ont 55 ou plus, vous gagnez. À l'inverse, under, s'ils sont à 54 ou moins, vous gagnez.
Vous perdez.
Enfin, si vous avez parié sur le moins,
oui,
vous gagnez.
Oui, oui.
Du coup. Mais en l'occurrence, ici, on l'utilise plutôt pour comme un espèce de sondage, ou en tout cas pour un peu avoir l'opinion de la fanbase NBA, parce que Vegas se trompe très rarement. C'est-à-dire que quand tu regardes historiquement, il tape le 50%. Et en fait, dans ce genre de cote, t'appelles 50%, c'est parfait. C'est-à-dire qu'une fois sur deux, en fait, c'est un peu un
pilou. De l'argent.
Oui, en tout cas, vous perdez. Du coup, deuxième chose que je me suis promis de dire dans ce podcast, ne pariez pas sur ce qu'on va dire. Hein. Alors, ne suivez absolument pas ce qu'on va dire. On va juste utiliser ça pour un petit peu voir où sont placées les différentes équipes. Et Tom, on a décidé de sélectionner pour chaque conférence une équipe qu'on juge surcotée, entre guillemets, trop haute, une équipe trop basse, une équipe qui a de la variance, c'est-à-dire qui pourrait être trop haute ou trop basse. Avant de commencer, je te propose de te demander comment tu as classé un peu ces équipes. Qu'est-ce que tu as fait peser ou pour choisir certaines ou en écarter d'autres?
En fait, pour ça, je me suis rendu compte que Vegas, cette année, ils ont été, entre guillemets, très conservateurs sur les équipes tout en haut. Et ils ont été vraiment très, tatillons ou du moins très joueurs sur les équipes du milieu qui ont justement de cette variance. On parlera d'une de ces équipes-là dans la conférence Ouest, j'imagine, tout à l'heure. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé les effectifs, les mouvements, et j'ai pris en fait plusieurs facteurs. Le premier, c'est le niveau de motivation. C'est quoi la motivation de l'équipe pour, est-ce que c'est une équipe qui serait motivée pour avoir, par exemple, l'avantage du terrain en play-off? Sachant que, par exemple, si le favori, tu sais que le favori, il va moins se tuer à la tâche pour avoir l'avantage du terrain. Là où, par exemple, des équipes comme peut-être Utah, c'est quelque chose qui va être vital pour eux pour éviter un maximum certaines équipes qui pourront être dangereuses pour elles. Tu as aussi l'historique des joueurs qui sont dans l'effectif. En termes de santé, est-ce qu'il y en a qui reviennent de blessures? Est-ce qu'il y a des joueurs majeurs qui ont été blessés et qui ont pas du coup, qui peuvent pas profiter de l'intersaison? Ou est-ce qu'il y a des gens qui commencent aussi blessés comme, par exemple, on a le cas de Jamal Murray avec Denver. Ensuite, j'ai regardé aussi les forces et faiblesses estimées, enfin, que j'estimais personnellement de cette équipe-là. Est-ce que c'est une équipe, par exemple, qui va être top 5 dans un des côtés du terrain? Donc ça peut jouer sur l'amélioration de son plancher ou de son plafond. Ensuite, le niveau de pression pour performer. Alors, est-ce que c'est une équipe qui sera peut-être tentée de faire des moves pour s'améliorer en cours de saison parce qu'il y a énormément de pression sur le front office? La partie progression des jeunes joueurs et régression peut-être de joueurs plus âgés. Le bilan de l'an dernier, des changements majeurs et il faut pas oublier les biais. On peut choisir de croire, par exemple, tu as des gens qui peuvent légitimer que Boston sera top 3 à l'Est en se disant que Jason Tatum sera top 5 MVP. Tu crois ce que tu veux, quoi.
OK, je mettais dans le chat pour ceux qui voulaient le rappeler le classement à l'Ouest, du coup, c'est pour ça que j'écoutais Tom en même temps. Alors, j'ai beaucoup d'arguments qui vont rejoindre les tiens, donc je vais essayer de donner ceux qui sont un peu différents. Alors moi, déjà, j'évite d'insister sur les extrêmes, c'est-à-dire que les 4-5 meilleures équipes de la NBA et les 4-5 pires équipes de la NBA, faut s'en éloigner, en particulier quand t'insistes, c'est-à-dire que dire qu'une équipe a 54 victoires ou 54,5, prenons l'exemple des Nets, va surperformer. Certes, je le pense, mais c'est prendre un risque qui est assez... J'ai été traumatisé par une année où j'avais annoncé le over sur Boston. Tu vois, l'année où ils ont Irving, Hayward, etc. Ouais. Et ils prennent un bon gros under bien salé. Donc depuis, ça m'a calmé. Je triche aussi, c'est-à-dire que je vais regarder plusieurs sites de Paris ou à Las Vegas et regarder en gros où sont les plus grosses variances entre deux équipes. Et en gros, plus il y en a, plus j'essaye de m'écarter parce que ça sous-entend que les gens sont pas encore fixés sur ce qui va se passer. Alors, je sais que les plus gros parieurs qui nous écoutent diront « Mais Benjamin, c'est le meilleur moment pour prendre l'endroit où c'est le plus avantageux et parier dessus. » Oui, mais on joue pas de l'argent ici. Donc, on le fait pas vraiment. Et du coup, je prends aussi, j'ai tendance à réfléchir à un an après. C'est-à-dire que parfois, les pronostiqueurs ont tendance à annoncer les équipes un an avant. Donc, les équipes d'il y a un an qui ont sous-performé, pour moi, c'est des équipes qui m'attirent. Parce que c'est des équipes, entre parenthèses, Hornets, c'est des équipes qui souvent, l'année d'après, en fait, bien souvent, on a un an d'avance sur ce qui va se passer.
Comme les autres aussi, peut-être.
Ouais, exactement. Et à part ça, c'est tout. Et enfin, ça, c'est toujours le cas. Il y a un espèce de petit... Les équipes, les gros, entre guillemets, marchés, Knicks, Lakers, faut s'en éloigner parce que c'est tout le temps des codes qui sont mal placés, je trouve.
Et la notion de division aussi est importante. La notion de division aussi est importante pour, par exemple, deux équipes qui pourraient être proches. Par exemple, si je prends, disons peut-être sur le papier, t'as... Indiana, tu vois. T'as Indiana qui est pas forcément très loin des Knicks globalement, tu vois, si tu prends tous les aspects coaching, effectif et tout ça, sauf que t'as Indiana qui est dans une division un petit peu plus paisible avec les Cavs, avec les Pistons, là où t'as par exemple les Nets, les Knicks qui est dans une division avec les Celtics, les Nets et aussi Philly. Donc ça aussi, ça peut jouer puisqu'ils jouent plus souvent, ils rencontrent plus souvent leur division. Donc à quelques victoires près, ça peut aussi faire la différence sur un over-under. Et puis, dernière chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est que les over-under de Las Vegas sont totalement différents des over-under qui sont sortis par Kevin Pelton d'ESPN. Chaque année, on entend les gens se plaindre. Oui, mais c'est pas possible. Rappelons que les chiffres que sortent, par exemple, ESPN et Kevin Pelton, c'est absolument pas ce qu'ils pensent, c'est ce que les nombres lui disent.
Ce qui fait que les nombres qu'on prend aujourd'hui sont moins sujets à débat que c'est ceux ça. De Pelton, parce que là, ceux-là sont placés de telle sorte que tu hésites à te dire est-ce qu'il faut mettre de l'argent sur le over ou le under, là où Pelton va forcément créer des réactions un peu épidermiques parce que forcément il aura des équipes un peu en dessous. Tom, je te propose de commencer par l'Ouest. Alors pourquoi ? La tradition veut toujours qu'on commence par l'Est, parce que je sais que toi et moi, il y a une équipe pour laquelle on est d'accord sur le fait que on pense vraiment que la cote est vraiment, vraiment mal mise. Donc, on va commencer par l'Ouest et on va commencer par l'équipe qu'on considère placée trop haute, c'est-à-dire qu'on considère qu'elle va sous-performer le nombre de victoires qui est annoncé. Je te laisse donc dire le nom de l'équipe en question et aussi le bilan annoncé, Tom.
Moi, je pense que ce sont les Warriors. Alors, les Warriors, ils ont un over-under à 48-5, c'est-à-dire que pour qu'ils passent au-dessus, il faut qu'ils gagnent 49 matchs. Et moi, je trouve que c'est un peu haut. Alors, oui, l'an dernier, ça représenterait à peu près presque 60%, ça représenterait 58% de victoire. L'an dernier, ils étaient à 54% de victoire. On va me dire oui, mais il n'y avait pas Klay Thompson et tout ça. Moi, ce qui me gêne avec les Warriors, c'est qu'il y a énormément de jeunes à incorporer. Et on l'a vu l'an dernier, l'intégration de jeunes joueurs et de retour de joueurs blessés, notamment Klay Thompson, ça se fait un peu dans la douleur sur le court terme pour avoir des résultats à long terme. Je pense que c'est une équipe qui sera bien meilleure à la fin de la saison qu'elle ne le sera en début de saison. Et du coup, vu qu'ils seront obligés de donner énormément de minutes à des joueurs qui ont très peu prouvé, ou du moins des joueurs qui sont néophytes dans la ligue, on a par exemple le cas Wiseman. Ils ont commencé à gagner l'an dernier quand Wiseman est sorti de la rotation. Il a fallu que par exemple Jordan Poole ait des coups de chaud pas possibles pour pouvoir les maintenir les minutes où Stephen Curry était hors du terrain. Et là, tu as deux autres rookies que tu dois intégrer dans l'effectif, et avec notamment Kuminga qui pourrait être entre guillemets sur le début un joueur plutôt négatif, puisque joueur très brut techniquement encore aujourd'hui, et dans un rôle plutôt de role player, alors que c'est pas ce qu'il a déjà connu avant. Donc voilà, tous ces facteurs-là, sans compter le côté blessure potentielle de Steph Curry, qui est un joueur qui est plus âgé et qui représente énormément pour cette équipe-là.
Donc, qui sort d'une grosse saison.
Et qui sort d'une grosse saison. Donc, du coup, je pense que c'est très haut pour cette équipe-là, ou du moins, il y a beaucoup plus de risques. Pour moi, il y a moins de chances qu'ils tapent l'over qu'ils soient sur l'under. En fait.
Rappelons que peut-être en plus de ce total de victoires-là, qui est à 48,5, c'est surtout que Las Vegas, enfin, le book qu'on a pris, nous, les place 4e à l'ouest.
Ouais,
c'est ça, c'est-à-dire avantage du terrain à l'ouest et très proche à seulement 2 victoires des équipes qui se situent au-dessus. Enfin, on les met à 3 victoires de la première position à l'ouest, ce qui est très 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 haut. Personnellement, je suis assez d'accord avec toi et j'ai vraiment essayé du coup de me demander mais pourquoi ? Alors, je me suis dit d'abord, je pense qu'il y a forcément le souvenir. La dernière fois, on les voit vraiment en bonne santé, ils sont en finale NBA et pas réécrire l'histoire, mais tout le monde se dit « Ah, s'ils sont pas blessés, ils gagnent le titre. » Donc, il y a peut-être ce souvenir-là qui est toujours assez présent. On parlait du DH20 en début d'émission. On a commencé à regarder les premiers bulletins. Klay Thompson est dans beaucoup de top 20. Personnellement, là où pour moi, il n'y est pas. Ouais. Et même si j'imagine un Klay Thompson de retour à 100%, c'est-à-dire le niveau 2019, pour moi, la discussion se fait et même présent, tu vois, je téléporte le Klay Thompson de 2019. Maintenant, je suis pas sûr qu'il soit même dans mon DH20, mais il y a toujours ce souvenir-là. Je pense aussi qu'il y a l'impression de Stephen Curry l'année dernière. Et puis, faut pas oublier, hein, notre outil n'est pas parfait. Les Warriors, le souvenir reste tellement fort que les gens vont peut-être avoir peur de parier en dessous. Mais je suis assez d'accord avec toi. C'est une équipe qui va mélanger l'expérience et les joueurs un peu plus jeunes. Il faut le retour à la compétition d'un Klay Thompson. Ils n'ont pas un banc incroyable. Hein. Et pour gagner ce nombre de matchs-là, il faut avoir un sacré banc. Le seul petit point positif pour eux, je pense, c'est que leur début de saison est extrêmement abordable. Ouais. Leur premier mois est super abordable. Ils jouent en gros pratiquement toutes les équipes qui sont promises au top 6 de la draft, ils les jouent. Donc, ça pourrait leur permettre de se mettre dedans, mais 48, c'est beaucoup. 48, c'est vraiment beaucoup.
Après, c'est des équipes comme ça, tu vois, comme les, tout comme les Lakers, c'est des équipes qui ont, entre guillemets, un calendrier beaucoup plus dur, toujours en deuxième partie de saison, puisque la saison NFL se termine, et comme c'est des équipes qui ont pas mal de matchs en télé nationale, ben, du coup, comme la saison de NFL se termine, ben, du coup, il y a plus de matchs, de gros matchs pour eux, une fois que la saison NFL est terminée, pour profiter un maximum de l'audience.
Comme quoi, nos auditeurs sont peut-être de futurs parieurs à Las Vegas, parce qu'on nous dit déjà. Alors, celui-là, il est très marrant, Tom. De pseudo, tu vas l'aimer, le Nate Duncan Stan.
Ah.
Alors, pour moi, ils n'iront même pas en playoff, les Warriors. C'est tellement hétérogène. Leur roster et Wiseman va continuer à les tuer, car a montré beaucoup de limites également l'an dernier, et une blessure de Curry, il ne gagne plus un match. On en parlait en off de ça, c'est vrai que Curry, on ne souhaite rien, mais il y a juste un historique. Et il y a Tyronn Lue qui nous dit, je ne les vois pas trop en playoff non plus, roster trop jeune. Donc,
ils étaient quand même 8e hein, l'an dernier. Ils se sont sortis au play-in, ils étaient quand même 8e. Hein. Après, c'est vrai que Steph Curry a fait deux derniers mois totalement héroïques. Enfin, c'est incroyable ce que Stephen Curry a fait pour eux. Après, c'est vrai qu'il y a, comme tu dis, le côté variance. Et puis, ils ont des joueurs très jeunes, mais les vétérans qu'ils ont ramenés sont des joueurs qui sont pas mal sujets aux blessures. Tu vois, quand tu regardes Otto Porter, Top 15 Shooter, qui ne l'est plus malheureusement. Quand tu vois, tu as Iguodala aussi qui est revenu, qui voilà, lui aussi, d'un point de vue santé, c'est pas non plus la panacée. Donc, va falloir, effectivement, c'est une équipe qui a énormément de variance.
Moi, j'essaie de, avant qu'on commence à enregistrer, Tom, j'essaie de construire un scénario où ils arrivent à 49, parce que du coup, 48,5, il faut arriver à 49 hein, pour gagner. Du coup, je me dis, il faut donc un Stephen Curry qui ne se blesse pas, un Klay Thompson de retour, une défense qui tienne. Moi, j'ai très peur de leur défense, parce que Draymond Green aura déjà joué cet été. Bon, il y aura eu, cette année, il y aura eu vraiment une période de pause. Hein. Il n'a pas joué les playoffs, donc je pense que son voyage au Japon, qui n'a pas duré très longtemps vu les conditions sanitaires, je pense qu'ils pourront s'en remettre. Mais quand même, défensivement, je ne suis pas sûr que cette équipe soit très forte. Donc, ça demande une attaque qui soit incroyable. Et on a bien vu l'année dernière, Tom. Alors certes, Klay Thompson permettra à l'équipe de ne pas avoir des, entre guillemets, non-shooters, ou alors des shooters négatifs, mais il faut faire beaucoup, en fait, pour entrer dans le top 10 des attaques, parce que c'est ce dont ils auront besoin s'ils veulent atteindre ce niveau-là et d'une très bonne défense. Donc, ça me semble très juste, personnellement.
Ouais, clairement. Après, l'an dernier, c'était surtout l'attaque qui leur faisait défaut, hein, puisqu'ils ont fini dans le bottom 20. Malgré un Stephen Curry totalement incandescent, ils ont fini 21e attaque. Ils ont fini 21e attaque et 5e défense. Donc, tu vois, la défense a quand même tenu l'an dernier, mais c'est vraiment l'attaque qui les a plombés. Donc, il faut voir comment ils arrivent à réagir cette saison. Et comme l'a dit Nate Duncan Stan, si je prononce bien, bah, le côté Kerr, en fait, Kerr, il s'en sort généralement mieux avec des joueurs qu'il connaît, puisque c'est un coach qui semble très peu malléable quand des joueurs n'ont pas l'archétype qui rentre dans son système. On a vu qu'il y a eu pas mal de difficultés l'an dernier à intégrer Kelly Oubre, qui est un peu tu vois, un foufolet électron libre. Il y avait eu aussi des soucis avec D'Angelo Russell. Donc, ouais, faudra voir. Il y a énormément de pièces à devoir bouger et Kerr, il aura beaucoup de travail cette saison.
Par rapport à la défense, si je peux préciser, c'est que beaucoup des profils qui vont avoir plus de minutes cette année, il y a des questionnements en défense, contrairement peut-être à l'année dernière, tu vois, au niveau des profils. Par exemple, un Klay Thompson, le retour défensif, autant le retour shooting, on peut penser qu'il n'y aura pas vraiment de problème, mais le retour défensif, à voir. C'est assez incroyable. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est... on n'est pas du tout dans le polémique, parce que tout le monde est d'accord sur le chat pour nous dire, que ce soit Jules ou Dr Gourou, pour nous dire vraiment que bah, c'est... Alors, il y a beaucoup de Warriors pas en playoff. Peut-être ça, on pourra en parler pendant les pré-ups, parce que peut-être qu'on les voit un peu plus bas, mais pas si bas que ça.
C'est ça.
On peut enchaîner, Tom. Maintenant, l'équipe, selon toi, qui, à l'ouest, est vue trop basse?
Alors, l'équipe, moi, je dirais le Jazz. En
sérieux, c'est pas marrant. On s'est pas mis d'accord, on a les mêmes.
Sérieux? Ouais, c'est au choix le Jazz ou les Suns, en fait. Je pense que les Suns, par exemple, c'est une équipe qui souffre beaucoup. Enfin, on sous-estime la saison régulière qu'on fait les Suns parce qu'en fait, en playoff, ils ont eu pas mal d'adversaires blessés et qu'on a l'image aussi du match 3, du match 4, entre guillemets, où ils sont menés avant la blessure d'Anthony Davis. Donc, du coup, on se dit que leur parcours, voilà, c'est parce que les autres se sont blessés, alors que les Suns, c'était vraiment une très, très bonne équipe de saison régulière l'an dernier. Et enfin, durant, pas une bonne équipe de saison régulière, c'était une très bonne équipe durant la saison régulière. Attention, c'est pas la même chose. C'était une très bonne équipe durant la saison régulière. Et il y a pas mal de joueurs qui sont dans cet effectif-là qui, normalement, sont censés progresser. Donc, pour moi, sur la saison régulière, je pense que ça va être une équipe qui va être très forte. Et le Jazz aussi, tout simplement, parce que ce que fait le Jazz. Si on prend par exemple l'exemple des Bucks de l'autre côté, c'est pareil. Ils ont déjà une méthode qui est prouvée. C'est juste les joueurs qui remplacent, qui vont les joueurs qui vont. La variance va justement se faire sur est-ce qu'ils mettent leur shoot à trois points dedans et entre guillemets la variance du tir. Mais on sait très bien que c'est une équipe qui a Rudy Gobert en saison régulière. Le drop, ça fonctionne très bien. T'as pas énormément d'équipes qui vont te jouer en mode playoff. Donc, ils vont naviguer à travers la saison régulière avec une bonne défense et avec une bonne attaque, en fait. Donc, c'est juste ces deux éléments-là où tu sais que t'as un très haut plafond. Pour moi, ça t'assure vraiment d'exploser. Tu vois, eux, ils doivent être à 51 ou 52 victoires.
Ils sont à 51,5. C'est l'année dernière. Donc, il faut miser 52 pour gagner et ils sont à 52 l'année dernière, c'est-à-dire qu'ils ne gagneraient pas un match de plus alors qu'il y a 10 matchs de plus dans la saison régulière, parce qu'on passe de 72 à 82 matchs.
L'année dernière, ils étaient à 72% de victoire hein, quand même, le Jazz hein. c'est pas rien hein.
C'est pour ça que je te dis là, je contredis un peu mes propos du début, parce que j'aime pas me positionner sur des équipes que tu commences à dire qu'une équipe annoncée à 50 et quelques doit faire plus, c'est un peu gênant. Mais là, je trouve que de toute façon, on l'a dit, ces cotes-là, elles sont assez entassées et je pense que le Jazz peut faire mieux. Tu l'as dit, le système en saison régulière est prouvé, les joueurs reviennent, il y a de la stabilité. Rudy Gobert reste, ça leur permettra d'avoir une énorme défense. Le shoot, ça devrait pas descendre. Donc, en plus, eux aussi, ils ont un avantage dans leur calendrier, c'est que la fin est très, très dure. Mais en fait, tu te dis que quand tu as 15 derniers jours très durs, parfois, il y a des équipes qui ont déjà leur seeding pour les playoffs. Donc, des fois, en fait, tu trouves sur des matchs tronqués. Donc, je pense que le Jazz peut le faire. Et du coup, si on doit un petit peu se démarquer, toi et moi, je dirais les Spurs. Les Spurs, ils sont annoncés 13e de la conférence à 29,5 victoires. Alors là, c'est tout bonnement sur un argument historique. Depuis 2004-2005, je me rappelle, j'ai cherché. Popovic, à 13 reprises, il a toujours tapé le over. Donc, sur les 16 dernières fois, il a tapé le over 13 fois. Ouais. Alors, c'est pas l'effectif le plus talentueux, mais je trouve que sur l'argument historique, peut-être leur donner 31, 32. Je dis pas qu'ils vont faire une saison à 50%, mais je pense qu'on peut leur donner ça. Surtout qu'ils ont l'avantage d'avoir les Rockets dans leur division qui sont annoncés nettement en dessous.
Oui, bon. Ouais, clairement, ouais.
Très bien. Eh bien, alors, Tom, on a eu un petit mot marrant de George Kittle qui nous dit Warriors Champions. Bon, George Kittle, le tight end des San Francisco 49ers. Je pense qu'il y a un petit poil de subjectivité dans ce commentaire. mais bref, on continue. Tom, l'équipe qui a le plus de variance, c'est-à-dire l'équipe selon nous qui a le potentiel pour être très haut ou très bas, ou en tout cas qui peut bouger beaucoup. Je te laisse commencer.
Ben, t'as les Warriors, hein. T'as les Warriors dont on a parlé, mais bon, c'est pas drôle de les reprendre. Moi, je dirais vraiment les Lakers. Je dirais les Lakers, puisqu'en fait, les Lakers, ils sont annoncés à 50 victoires. Je pense que c'est une équipe qui a pas mal de vétérans. La plupart des joueurs qui sont dans cette équipe-là ont déjà gagné au moins une bague. Donc, je me dis que ça va être une équipe qui va se la jouer un peu à la Cavs 2018. Et qui va être peinard, il va se dire bon, de toute façon, nous on attend les playoffs et tout ça, et ils vont passer la saison régulière tranquille, quoi. Ils vont se tester, machin. Mais je pense pas que c'est une équipe qui a vraiment des chances de s'en moquer de son bilan. Et tu vois, quand je parle du facteur motivation, je pense que c'est pas une équipe qui a la motivation de vraiment donner le meilleur d'elle-même en saison régulière.
Surtout que vu l'âge moyen de l'effectif, ça peut se comprendre aussi. Point de vue pour ce. Au début, je voulais partir sur une équipe de Los Angeles aussi et tu me fais douter, en fait. Moi, je voulais partir sur les Clippers parce que, en fait, on en parlait. Je me demande à quel point on s'accroche au souvenir de leur bon dernier match de playoff hein, avant de rendre les armes contre les Suns. Ils ont été extrêmement vaillants et ils ont fait des choses qu'on, franchement, je pensais pas qu'ils avaient ça dans le ventre. Mm-hmm. Mais là, c'est pas le même. On leur demande pas les mêmes choses. On leur demande d'être bons sur toute la longueur d'une saison régulière. Je me demande beaucoup parce que le statut de Kawhi est. On ne sait pas. Franchement, il flotte. On ne sait pas vraiment. Franchement, ça serait très surprenant de le voir de retour avant janvier, voire février. La compétition à l'Ouest reste quand même extrêmement compliquée. Enfin, il y a des équipes de haut niveau. La division est difficile. Ouais. Donc, je me demande à quel point ça va prendre. Ils ont perdu Rondo, Beverley. Ils jouent un rôle quand même la saison dernière. Alors, certes, c'est sur du basketball de playoff, mais à voir à quel point le rôle qu'on va donner à leurs jeunes joueurs, ça va marcher sur la saison régulière, je sais pas. Là, ils sont annoncés 7e à 45 victoires. Bah, pour moi, c'est dans le mille parce que si je devais faire un scénario catastrophe, un scénario parfait, bah, ça se retrouve à peu près là.
C'est vrai que c'est un peu, tu vois, c'est là où tu t'es dit que, ils font bien leur boulot quand même à venir. Parce que je pense que tu dois avoir peut-être 60, tu dois peut-être avoir 55% des personnes qui vont te dire ouais, c'est over easy, et peut-être 45% des personnes qui vont te dire ouais, qu'ils le sentent pas, qu'il y a, voilà, que tu vois. Donc, je pense que la ligne est vraiment bien faite pour que tu puisses hésiter ou pas.
Exactement. Ouais. Si tu penses que Kawhi va jouer 10 matchs en fin de saison et que cette équipe-là, ce qu'on a vu sur les quelques matchs de playoffs, c'est un peu un trompe-l'œil, bah oui, tu mets under et tu te dis, ah, ils vont au play-in, mais je sais pas, moi, je m'en éloigne. Je m'en éloigne. Très bien, Tom. Rien d'autre à dire sur cette conf Ouest?
Non, rien d'autre. Après, enfin, moi, je suis surpris un peu par rapport à Dallas. Tu vois, le fait que, enfin, je trouve que le changement de passer de Rick Carlisle à Dejan Kidd, c'est un peu sous-estimé, même si, bon, Luka Doncic...
Dans le mauvais sens, on est d'accord.
Sous-estimé dans le mauvais sens, même si on peut s'accrocher au fait que Luka Doncic, tu vois, c'est lui le favori, entre guillemets, pour le MVP. Donc, si normalement, il est favori pour le MVP et que Vegas le voit comme favori pour le MVP, il y a de fortes chances que son équipe soit haute classé à la fin de la saison, et peut-être que les gens aussi s'accrochent au fait que Kristaps Porzingis, pour l'une des rares fois de sa carrière, va faire une intersaison où il n'est pas blessé. Donc peut-être que les gens s'accrochent à ça, puisque enfin le roster n'a pas forcément beaucoup changé, ça a plus bougé à côté que du côté terrain. Et je trouve qu'il y a une dualité assez bizarre, par exemple, alors que quand tu prends une équipe comme Denver, qui est quand même bien restée en haut de la conférence, même après la blessure de Jamal Murray, et qui a en son sein le MVP de la Ligue, Nikola Jokic, tu aurais pu te dire qu'il y aurait une plus grosse différence entre ces deux équipes.
Ouais, pour rappel, on le prédit le même bilan à ces deux équipes, donc 5 et 6e de la conférence à 47,5 victoires. Donc, peut-être un peu sous-estimé pour les Nuggets, même si, encore une fois, là, c'est le statut de Jamal Murray. On ne sait pas grand-chose, on ne sait pas vraiment quand il va revenir. Donc forcément, même s'ils ont eu une période l'année dernière où sans Jamal Murray, ils ont fait du très bon boulot, à voir sur une saison régulière où tu risques d'être sans lui. Moi, la seule chose à dire, c'est que j'ai été voir le bilan historique et ouais, c'est assez marrant. Là, on a un espèce de trio qui se battrait pour le play-in. Pelicans, Kings, Wolves, et tout ce que j'ai vu m'indique qu'il faut pas du tout mettre d'argent sur ces équipes-là parce que c'est vraiment ça varie trop. Vraiment, éloignez-vous de ces équipes-là. Les Pelicans, c'est vraiment marrant. Depuis l'arrivée de Zion, ils tapent toujours le under, mais bien. C'est-à-dire le monde NBA les voit un peu trop beaux. On souhaite de mal à personne, mais du coup, faut s'en éloigner. Et ben Tom, on va passer à l'Est et On va terminer avec l'équipe trop haute parce qu'on a tous les deux eu du mal à la trouver. Donc, on va s'affairer à l'équipe trop basse. Selon toi, quelle équipe est trop basse dans cette conférence Est?
Moi, je dirais, ça va paraître un peu bizarre, mais je trouve que les Pacers sont bas hein, quand même. C'est bizarre. Les Pacers, on va dire que c'est une grande histoire d'amour entre nous. Tu vois, l'équipe moyenne. Là, ils ont un bilan, on les met un bilan moyen, tu vois, 43 victoires et demie. Mais je trouve que il y a pas mal de choses qui se sont mal passées pour eux l'an dernier. Tu vois, entre quand tu prends le transfert de l'Adipo, les différentes blessures, tu as eu la problématique avec Brogdon, tu as eu la problématique avec le coach rookie, tu as les problématiques avec les bruits sur Miles Turner, tu as eu aussi quelque chose avec TJ Warren, qui a quasiment pas joué de la saison. Et je me dis, en fait, ils récupèrent en plus Rick Carlisle, qui est le coach élévateur de plafond et de plancher. Je me dis que c'est une équipe qui pourrait être vue comme on la voyait l'an dernier, tu vois. Puisque l'an dernier, c'est une équipe qui était un peu vue collée au top 4, tu vois, aux côtés de Toronto.
Parmi les équipes au-dessus, est-ce que tu les vois? On va rappeler rapidement les équipes qui sont au-dessus d'après ce qu'on a nous. Donc Nets, Bucks, Sixers, Heat, Hawks, Celtics. Donc les Pacers sont annoncés 7e. Est-ce que tu les vois devant une de ces équipes-là?
Non, je les vois pas forcément devant, mais je pense qu'ils auront peut-être plus de wins, plus de victoires que ça.
Et est-ce que tu penses à une équipe qui peut les... Parce qu'en fait, non, moi, je te refais mon cheminement. Pourquoi? Ouais. Je suis passé de les Pacers, c'est sûr, à... Ah, les Pacers, je suis pas sûr. Parce qu'en fait, au début, je me suis dit oui. Et ensuite, je me suis dit, je vois pas une équipe au-dessus, peut-être à part un accident industriel chez les Celtics, mais j'y crois pas. Donc, je vois pas une équipe du dessus descendre. Et je vois potentiellement certaines équipes du bas leur passer au-dessus. Et le truc, c'est que on reste à l'Est. Tu vas pas avoir un 7-8e à 45, 46, 47.
C'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est vrai que vu comme ça, oui. C'est vrai que si, d'un point de vue intrinsèque, ça peut paraître bas, mais quand tu prends tous les éléments, peut-être que la ligne est vraiment bien placée, puisque au final, ils sont quand même au-dessus des Knicks et au-dessus des Bulls. Ouais, c'est ce qui peut paraître étonnant. D'ailleurs, l'intersaison des Bulls qui, on va dire, qui divise pas mal les différentes tranches de fanbase NBA.
Les Bulls, c'est l'équipe selon les différents books qui a la plus grosse variance. Je les ai vus à 39 victoires à certains endroits et je les ai vus à 42-43 à d'autres. Ça fait quand même 4 victoires, c'est énorme en termes de différence. Donc les Pacers, je me demande aussi, tu vois, les bruits autour de Malcolm Brogdon, est-ce que ça peut pas amener un trade. Enfin, tu vois, le trade de Malcolm Brandon, il flotte un peu. On en reparle souvent dans les. Donc, il y a. Cette équipe des Pacers, je l'ai insérée dans mon groupe des un poil trop d'incertitudes pour que je les mette dans ce groupe-là. Mais sur le principe, c'est vrai. C'est limite trop tentant. Carlisle, ouais, c'est ça, ouais. Les problèmes l'année dernière, tu te dis, c'est le scénario typique de l'équipe qui a connu une mauvaise saison qui va rebondir. Mais j'ai juste du mal à les mettre là. Personnellement, c'est cool, on n'a pas la même. Est-ce que tu peux deviner la mienne, c'est laquelle?
Celle que tu penses, c'est plus trop haut?
C'est trop bas.
C'est trop bas. Je vais pas dire Orlando.
Orlando, ils sont à 23.
C'est trop bas, je dirais le Heat.
Alors, j'ai pensé au Heat, mais je me suis dit équipe, nouvelle équipe, etc. Je me demande si c'est pas une équipe de début de playoff. Bref, j'ai mis les Hornets, cas typique de l'équipe qui, selon moi, a été vue. C'est une équipe qui a été vue très haute par certains bookmakers l'année dernière, qui n'a pas été au niveau là où on les attendait. Et cette année, ils sont annoncés, je trouve ça dur, ils sont annoncés à presque 4, voire 5 victoires du top 8. Ouais. Je ne trouve pas, ils sont annoncés pratiquement plus proches des Wizards 12e que du top 8. Je trouve ça extrêmement dur. LaMelo Ball sera dans sa deuxième année. Je trouve que ce qui commence à être construit est extrêmement intéressant. On croise les doigts. Peut-être Gordon Hayward va rester en bonne santé une année.
Ouais, mais ça, tu vois ça.
Ça, on n'y croit plus trop. Mais franchement, je trouve que c'est le cas typique. C'était l'équipe qu'on avait vue belle l'année dernière, qui l'a été. Parce que franchement, sur certaines parties de saison, c'est une équipe de playoff, les Hornets. Donc pour moi.
Bon, avant la blessure des Hornets, je crois qu'ils sont top 5, top 6. Hein,
ouais. Donc, je pense que cette équipe-là peut... Alors, je les vois peut-être pas qualifiés avant le play-in, mais pour moi, ils vont être vraiment dans la bataille du play-in. Là où, selon ce que nous disent les bookmakers, c'est une équipe qui va se raccrocher au play-in, mais qui sera vraiment un chariot
ouais,
derrière.
Ouais, comme l'an dernier, quoi. Ouais. L'an dernier, comment ils ont fini. Alors, c'est vrai que, tu vois, moi, je pensais que tu m'aurais dit, par exemple, une équipe plus haute, par exemple, comme les Bucks, avec, tu vois, un peu comme à l'image de d'Utah, tu vois. C'est une équipe qui a 53 victoires. Tu te dis, ils ont Giannis, ils ont la confiance du titre. C'est une équipe.
Moi, j'ai eu peur de l'après-titre, justement.
Ouais, c'est ça. C'est une équipe, tu penses que, tu peux penser qu'ils vont devoir se battre et pour arracher un maximum l'avantage du terrain sur tous les playoffs parce qu'il y a les Nets, tu vois. Donc, je me suis dit, peut-être cette équipe-là, mais c'est vrai que les Hornets, ça peut paraître un choix. Moi, la raison pour laquelle je vais peut-être un petit peu plus bas sur les Hornets, notamment par rapport à leur revendeur, je trouve que la ligne est bien placée, c'est que je trouve qu'ils vont devoir, vu les changements qui ont été faits, ils ont récupéré, par exemple, tu vois, Kai Jones, là, l'espèce de pivot hyper-athlétique. Les premières années des pivots hyper-athlétiques, ça se passe pas forcément bien dans la ligue quand ils ont des minutes. T'as aussi Booknet qu'ils ont récupéré, donc c'est un jeune joueur au drafté avec plutôt un haut potentiel qui va devoir, entre guillemets, à qui ils vont devoir donner des minutes, tu vois. Donc je me dis que ces joueurs-là, il y a beaucoup de risques. Là où l'an dernier, ils avaient des joueurs un peu plus safe, peut-être avec moins d'upside, entre guillemets, tu vois, les jumeaux Martin, tout ça, ce sont pas des role-players classiques. Tu sais ce qui, les coups qu'ils vont t'apporter à chaque match, et du coup, t'as pas de joueurs négatifs d'un soir sur l'autre, tu vois. C'est des mecs avec un niveau constant. Là où ils vont ajouter, entre guillemets, de la variance avec des jeunes joueurs dans le projet qui ont potentiellement des minutes. Et je me dis que ça peut un peu les dérailler, surtout si Hayward vient à manquer des matchs.
C'est vrai. Après, pour contrebalancer ça, ils ont ramené... Alors, Kelly Oubre, on vient d'en parler du côté des Warriors, c'était pas ça. Mais Wave Papi, à l'Est, dans un rôle... Comme ce qu'il avait peut-être du côté des Wizards, c'est bien. Ils ont Plumlee. Enfin, je me dis qu'ils ne vont pas non plus être totalement dépendants de la production de leurs jeunes joueurs. Alors certes, ils en auront besoin, mais ils n'en seront pas dépendants. Alors oui, bien sûr, la clé, c'est la santé de Gordon Hayward. Mais perso, j'y crois. Enfin, je crois vraiment cette équipe. Alors, je l'ai dit, hein, pour moi, ça ne va pas être une saison incroyable, mais ouais. Je ne peux pas concevoir qu'il y a... pour moi, il n'y a pas 7-8 matchs entre les Hornets et les Pacers, en fait.
Ouais, je comprends. Oui, je comprends. Je comprends pas, en fait.
Genre, c'est énorme. Enfin, c'est en termes de match, c'est vraiment énorme. Surtout qu'en plus, dans leur division, ils ont le Magic et ils ont les Wizards, ce que je considère comme en dessous. Ils ont pas d'épouvantail. Ils sont pas, ils ont pas le Nets Sixers. Ils ont pas les Bucks. On pourra me parler peut-être du Heat, bien évidemment, mais c'est fait moins figure d'épouvantail. Donc, moi, je choisirais ces Hornets là.
Ouais, c'est vrai. Après, c'est vrai que, tu vois, moi, là où, tu vois, pour moi, dans mon mini-algo, tu vois, quand j'ai listé toutes les choses auxquelles je faisais attention, il y a quelque chose auquel, tu vois, ils sont présents nulle part, c'est quand je faisais, tu vois, les top attaques ou défense.
Ah, ouais.
En fait, je vois cette équipe-là dans aucun des deux, tu vois. C'est pour ça que j'ai moins de, entre guillemets, j'ai eu plus de
moins d'atomes crochus avec eux, ouais.
C'est ça, surtout que quand tu regardes l'an dernier, par exemple, ils ont fini la saison en 22e attaque, 20e défense.
Mmh. Ouais, c'est le profil d'une équipe qui se bat pour la fin de play-in, quoi.
Ouais.
Très bien. Tom, on a tous les deux galéré pour trouver une équipe classée trop haute dans cette conférence S, parce que là, c'est pour ça qu'il ne faut pas parier, les gens. c'est vraiment bien fait. Hein. Franchement, je ne sais vraiment pas où aller. Hein.
Moi, j'aurais dit, enfin, par défaut, hein, j'aurais dit soit les Raptors, puisqu'ils sont dans une division qui est quand même compliquée. Quand tu regardes, ils sont dans l'Atlantique. Donc, ils sont avec les Knicks, les Nets, les Philly et Boston. Donc, du coup, ça fait quatre équipes qui jouent quelque chose. Et eux, tu vois, ils ont perdu Kyle Lowry. Il y a des bruits autour de Pascal Siakam. Voilà, enfin,
ils n'ont pas
été bons l'an dernier, mais après, tu vois qu'il y a tout le contexte du fait qu'ils étaient à Tampa Bay, tout ça. Et puis, ils ont récupéré un gros projet qui vont visiblement, Scotty Barnes, qui vont visiblement faire jouer à la benne. Alors, enfin, donc, donner énormément de responsabilités de playmaking à un aussi jeune joueur qui n'a pas forcément de shoot, qui est un bon défenseur, mais qui n'a pas de shoot, je me dis que à l'initiation, ça va être compliqué pour eux cette saison. Même si... Et après, de l'autre côté, tu peux te dire que ouais, c'est une équipe qui est coachée par Nick Nurse et que Nick Nurse trouve toujours des solutions pour faire surperformer, entre guillemets, son équipe.
J'ai pensé aux Raptors aussi.
Ouais.
Je veux jamais trop toucher aux équipes du bas, mais le trio Magic, Pistons, Cavaliers, je ne peux pas croire que les trois seront au-dessus des 23-24 victoires. Je ne peux pas y croire. Il y en aura une qui sera en dessous, mais je n'ai pas envie de savoir qui. Les Wizards,
je suis en train de faire toutes les équipes. Hein. Mais les Wizards, ils ont trop de roleplayers chiants pour pas gagner des matchs à un moment.
Ouais, c'est ça, ils sont deep.
À un moment, j'ai pensé aux Heat, mais Heat sont à 48 victoires. Tu pourrais penser aux Heat, mais ça me ressemble trop de dire que le Heat est, contrairement à ce que pensent les fans du Heat, ça me ressemble trop de dire que le Heat est sous-coté. Donc, non, j'ai pas de. C'est pas évident, comme quoi les mecs font bien leur taf. Hein. C'est bien, c'est pas évident. Même les Hawks, moi j'ai pensé à mettre les Hawks. Alors là, on va dire le monde à l'envers, j'ai pensé à mettre les Hawks dans l'autre catégorie, tu vois. Mmh. À me dire que sur une saison régulière, ils peuvent faire vraiment du taf.
Ouais, mais après, tu vois, c'est le théorème de ce qu'on avait, tu vois, comme pour le Miami de 10-32 et 32-10.
Ah,
c'est-à-dire
ouais.
que les Hawks, ils ont commencé la saison, ils n'étaient pas si bons que ça, et ils ont fait une fin de saison énorme. Et du coup, peut-être que l'année d'après, peut-être que tu vois, comme la dernière image qu'on a des Hawks, c'est qu'ils font une fin de saison en boulet de canon et ils vont en finale de conférence. Tu peux te dire que c'est peut-être bon en fait de les voir que là, mais en même temps, il y a aussi une première partie de saison qu'il ne faut pas occulter et l'équipe qui était présente, elle est encore là puisqu'il n'y a pas eu vraiment de changement à part le coach. Quoi.
C'est ça, le coach et les blessures.
Ouais.
Tu peux te dire que coach plus blessure, c'est ce qui peut expliquer les difficultés, surtout que c'est vraiment un changement du tout au tout, quoi. Enfin, nous, moi, je n'y croyais pas et ça a vraiment changé du tout au tout. Donc, à voir. L'équipe qui, selon toi, a le plus de variance dans la conférence Est, Tom?
Philly.
Sérieux?
Ben Simmons.
Ah ouais. Ouais.
Ouais. Parce que pour l'instant, Philly à la main, puisque visiblement, c'est eux qui sont en position de force pour les changer, mais si Ben Simmons finit par demander lui son trade et dit qu'il veut aller là, là ou là, ben, est-ce que tu pourras retirer comme package de là, là ou là? Ben, c'est pas forcément ce qui t'intéresserait toi de base en fait. C'est pour ça que je me dis que c'est une équipe qui, même si d'un point de vue système, c'est une équipe qui est solide, mais juste ce domino-là peut changer énormément de choses sur le fait qu'ils peuvent aller soit très haut, soit beaucoup plus bas en fait.
Sans Ben
Simmons. La santé d'un bide.
J'allais dire sans Ben Simmons, mais non, c'est même pas un exercice qu'on peut réaliser parce que sans Ben Simmons, on sait pas où, c'est pas ce qu'ils auront à la place, etc.
C'est ça.
Ouais, je peux comprendre la santé d'Embiid, même si bon, on touche du bois, comme un peu avec Gordon Hayward, ça a été plutôt bon ces dernières années, enfin, sans être catastrophique. Donc, enfin, je parle pas de celle de Gordon Hayward, je parle de, on souhaite qu'il soit, que les deux joueurs soient en bonne santé et Embiid, ça a l'air d'aller, il a refusé de se faire opérer, si j'ai bien suivi les informations. Je pense vraiment, personnellement, que l'équipe qui avait plus de variance du côté de l'Est, pour moi, je vais donner peut-être les Celtics, parce que les ouais. Celtics, tous les ans, ils nous font le même coup. Quand on les sous-estime, ils sont incroyables. Quand on les surestime, ils sont pas très bons. Et c'est une équipe, j'ai été assez critique avec leur été, j'ai énormément de mal à cerner. Depuis la fois où je les ai un peu égratignés, il y a eu Dennis Schroeder qui est arrivé. Alors, c'est loin d'être parfait, mais je m'étais plaint du manque de porteurs de balles. Là, ça adresse un petit peu ce besoin-là. À voir, est-ce qu'on va avoir une nouvelle évolution de Jason Tatum? Est-ce qu'on va avoir une nouvelle évolution de Jaylen Brown? Là, pour préciser à nos auditeurs, ils sont vus 5, 6e, 47 victoires. Alors, autant au niveau des victoires, ouais, ça me semble, c'est plutôt au niveau du classement, en fait. Je pourrais les voir avoir un avantage du terrain. Je peux les imaginer peut-être se battre pour le play-in dans vraiment un scénario catastrophe. Comment tu vas t'adapter à la première année sans Brad Stevens, qui est certes dans les locaux, mais qui est plus sur le terrain. Beaucoup de choses. Enfin, beaucoup de choses qui me font... Je sais pas, j'ai du mal à la cerner, cette équipe des Celtics. Et quand j'ai du mal à la cerner, je mets pas d'argent sur eux.
Et puis c'est une équipe qui, voilà, enfin, Brad Stevens, il a montré qu'en tant que dirigeant, enfin, directeur des opérations basket, il était prêt à faire des moves pour améliorer l'équipe. Notamment à court terme, quoi. Donc, c'est peut-être un roster qui va être amené à bouger aussi. Donc, il y a très peu de certitude pour que le roster qui a actuellement chez les Celtics soit exactement le même à la trade deadline. Sachant que tous les joueurs, enfin, la majorité des joueurs qu'ils ont prolongés, quand tu prends, tu vois, les Richardson, les mêmes, Marcus Smart, c'est des joueurs, bon, ils ont le fait qu'ils ont prolongé, ça leur met 6 mois, du coup, où ils ne peuvent pas être échangés, sauf que les 6 mois se terminent avant la trade deadline. Donc, au final, c'est des joueurs qui peuvent quand même bouger. Après, moi, là où j'ai peut-être un petit souci sur l'over-under de Boston, c'est qu'en fait, le roster de Boston est construit comme si c'est Brad Stevens qui va le coacher, sauf que la personne qui va le coacher, on ne sait pas.
Mmh.
Et pour moi, c'est une très, très grosse interrogation. Autant pour les Pacers, tu as Rick Carlisle tu sais par le passé ce qu'il a été capable de faire, et tu sais que c'est quelqu'un, voilà, que il va avoir un meneur backup qui va être excellent, il va avoir une équipe qui va tourner correctement avec Minotok, là où Udoka, en fait, on ne sait absolument rien, et du coup, ça apporte énormément de variance, en fait, le coach, au final. Mmh. Il y a de fortes chances qu'Udoka soit moins bon que Stevens l'an dernier.
Ah, c'est fort probable.
Mmh. Ouais.
Ou alors, que en termes, son effectif soit meilleur, et du coup, on pense que c'est un meilleur coach parce que l'effectif performe, alors que en fait, c'est les joueurs qui sont meilleurs, pas c'est tellement ça. Le coaching qui est meilleur. Il y a Nate Duncanstan qui nous dit « Ils ont de la continuité et Horford connaît déjà son rôle. » Il connaît son rôle, mais c'est plus le même à Horford aussi. Enfin,
C'est plus les mêmes joueurs qu'il y a aussi. C'est plus les mêmes joueurs.
C'est passé deux ans. Ouais, c'est passé deux ans. Et c'est pas deux ans entre 24 et 26. Hein. C'est deux ans passés la trentaine.
Et ce sont plus les mêmes joueurs qui. Enfin, ok, il connaît la maison, mais le Jason Tatum et le Jaylen Brown qu'il a connu quand il était là, c'est plus le même Jason Tatum et le Jaylen Brown aujourd'hui. Mm. Et tous les role-players, les mecs qui sont contrats rookie, ben, il a pas joué avec ces gars-là. Hein. Lui, il a joué avec les vétérans.
Mm. Puis ouais, franchement, alors je sais que Tom, ça va te faire mal parce que tu adores ce joueur, mais et la fanbase des Celtics aussi, mais il y a quand même toujours la rumeur qui plane autour d'un trade de Marcus Smart, etc., pour on ne sait pas où. Alors, je sais que dans l'imaginaire des fans des Celtics, c'est totalement inconcevable de voir Marcus Smart se faire échanger, mais effectivement, tu l'as dit, de toute façon, on l'a dit plus ou moins. Alors, s'ils veulent se renforcer à très court terme, il va falloir faire des trades, en fait. Enfin, il y aura pas d'autre solution, donc, à voir avec cette équipe des Celtics. Tom, je te propose d'enchaîner et de passer sur notre section MVP.
Yeah. Donc,
on a voulu parler des over-under des équipes, on va aussi parler du MVP. Alors ici, je vais donner un top 5-6 des MVP au moment où on se parle, des cotes. Donc, immense favori, Luka Doncic. Au même niveau, après, on retrouve Joel Embiid et Kevin Durant. Derrière eux, Giannis. Un peu en dessous, Stephen Curry. Encore un peu en dessous, Damien Lillard. Encore un peu en dessous, LeBron James. Et on va terminer par Nikola Jokic et Trae Young au même niveau. Tom, Luka Doncic. Alors, on va pas parler des cotes américaines parce qu'elles sont un peu difficiles à expliquer. Le plus 400, on n'est pas là pour vous inciter à parier. Luka Doncic est quand même largement favori pour le titre de MVP. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
Moi, je ne le suis pas, puisque enfin, je pense que c'est vraiment quelque chose comme l'an dernier, puisque l'an dernier, il était déjà favori. L'an dernier, il était déjà favori. En fait, je pense que c'est ce que les gens veulent en vrai. Je pense que les gens, les bookmakers et puis même les observateurs de la ligue, ils veulent que Luka Doncic soit un MVP pour, entre guillemets, enfin, les gens se lassent, je pense que les gens se lassent de Giannis, ça. Et, tu vois, Luka Doncic, c'est un joueur qui a, voilà, qui est assez générationnel. Et, c'est embêtant, tu vois, de le voir, échouer. Les gens, c'est le Golden Boy, quoi, de l'NBA. Les gens veulent que Luka Doncic réussisse. Et du coup, le voir MVP, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être logique. Mais je trouve qu'il a pas encore les armes et il a pas l'équipe pour être assez bien classé. Pour figurer, en fait, MVP. Je pense qu'il peut être dans le top 5, mais MVP, je trouve ça juste. Moi, je suis surpris, par exemple, de l'absence d'un gars comme James Harden.
Et je suis surpris. James Harden est 12e.
Ouais, je suis surpris. Alors que l'an dernier, quand tu regardes.
11e, pardon.
L'an dernier, quand tu regardes bien, si jamais il ne s'était pas blessé, il y a de fortes chances qu'il puisse l'avoir, en fait. Même si, bon, il aurait été disqualifié par rapport à sa première partie de saison, enfin, les 10 matchs à Houston. Mais globalement, le basketball que James Harden a joué sous le maillot des Nets, c'était légitime calibre MVP, quoi. Donc, ouais, surpris qu'il ne soit pas là. Et puis, surpris de ne pas avoir, par exemple, un gars comme soit Donovan Mitchell ou même un gars comme Devin Booker, quoi, par exemple, puisque leurs équipes sont censées bien performer.
Booker, 10e.
Ouais.
Tu vois, c'est bas. Alors, Tom, tu sais, moi, j'ai un traumatisme dans ma vie. Deux mots. Blake Griffin. Donc depuis, j'ai appris à être ultra conservateur quand il s'agit du MVP. On n'est pas là pour faire des choses mignonnes, on est là pour l'efficacité. D'ailleurs, il y a Tyrone Lowe qui nous dit dans le chat que je ne sais pas si Dallas aura le bilan suffisant pour être MVP. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. On rappelle qu'historiquement, il faut que tu sois quelque chose comme dans le top 4 NBA pour avoir le MVP. Et ouais, on peut imaginer que peut-être... ouais, j'ai quand même du mal à les imaginer top 4. C'est Mavs là avec l'arrivée de Jason Kidd. Jason Kidd, rappelons quand même ses exploits défensifs à Milwaukee alors qu'il avait de bons défenseurs. Donc maintenant, avec Dallas, bref. Moi, je t'avoue que le Luka Doncic premier, je pense qu'aussi ça répond à une logique qui est de regarder le classement des meilleurs joueurs NBA. N'oubliez pas de remplir le DH20 et de se dire, alors, regardez qui l'a eu. Et là, maintenant, quand tu fais la liste, il faut que tu descendes jusqu'à Luka, en fait, pour trouver un mec. C'est le premier mec qui ne l'a pas eu. Ouais. LeBron a eu MVP, Kevin Durant a MVP, Stephen Curry a MVP, Kawhi n'en a pas, mais il est blessé cette année. Donc, vraisemblablement, il est éliminé. James Harden, Giannis. Ah, tu peux défendre. Alors, j'ai pas
l'ordre en tête. T'as Embiid aussi. T'as Embiid, peut-être.
Embiid, tu vois. Et c'est pas.
Lillard.
Et c'est pas un hasard que Embiid Doncic soit 1-2, tu vois. Lillard est 3-6e, ce qui est haut aussi parce que tu as la question des victoires et la question de l'avenir du joueur qui certes semble s'inscrire cette année du côté de l'Oregon, mais par la suite, on ne sait pas vraiment. Donc, il est très haut. Moi, je t'avoue que là, je vais pas faire dans l'exceptionnel, mais Durant, Giannis, je pense qu'ils sont quand même bien partis. Le LeBron James, j'y crois pas du tout. Alors, je vais peut-être le regretter, ça, mais je pense que vu le profil d'équipe, on en a parlé tout à l'heure, je le vois pas. Le Jokic deux fois, on rappelle que historiquement, pour donner deux MVP de suite, c'est super difficile. Enfin, ce qu'a fait Giannis, faut pas croire. C'est pas la normale. Hein. C'est vraiment super difficile. Et ça s'explique souvent par un bilan qui va être super super bon et des stats inhumaines. Je pense pas que Jokic aura les deux. Je pense vraiment qu'on va ça, on va. Je vous crois pas au Doncic. Moi, je pense vraiment qu'on va partir sur un Durant ou un Giannis.
Parce que tu vois l'an dernier, Jokic, il était dans le top 5. Enfin, les Nuggets étaient dans le top 5 de la ligue. Il finissait avec le 5e bilan de la NBA. Et quand tu regardes bien, enfin. Si tu prends les équipes qui peuvent finir, par exemple, avec le top 5 des bilans de la NBA, au final, si, par exemple, on reste sur ce qu'on a pu voir, on peut se dire, selon Vegas, hein, attends, je regarde le classement de Vegas, si le MVP doit être dans le top 5, t'as les Nets, t'as les Bucks, et après, ils te mettent Sixers,
Lakers, Jazz,
Suns et Lakers. Si le MVP doit être dans ceux-là, ce serait genre... limite Embiid
favori,
Embiid,
ouais,
qui serait favori,
sachant que Embiid, on a déjà eu une saison MVP et le problème est les matchs ratés, tu vois, pour les MVP. Alors c'est un critère qui avec le temps est de moins en moins rigide parce que ça a évolué sur les 4-5 dernières années, mais il doit en jouer 70 quand même, et c'est pas fou de penser qu'il en jouera moins de 70.
Ouais, bah après sinon il reste Donovan Mitchell, hein.
Et Mitchell, tu penses vraiment, tu vois, on en parlait l'année où Westbrook, globalement, le MVP, c'est un top 10 NBA.
Ouais. Donovan Mitchell n'est pas un top 10 NBA.
Il n'est pas top 10 NBA. Après, je parle de Kevin Durant, mais je me dis moi-même dans ma tête, Kevin Durant, période Warriors, il n'y a pas un seul MVP aux Warriors, alors que ils font des saisons de ouf, hein. Il n'y a pas de MVP aux Warriors. LeBron James, période Heat, c'est une année où les deux des Three Amigos sont un peu en dessous, qu'il en chope un. Enfin, choper un MVP dans un Big Three totalement disproportionné, c'est super difficile, en fait. Enfin, faut vraiment que t'écrases la concurrence et que t'aies un membre du trio qui soit au-dessus. C'est dur, ça.
Ouais, ouais, à part si, par exemple, il y a des soucis de blessure et c'est lui qui est là le plus longtemps, quoi. Un peu comme l'an dernier avec James Harden.
Il y a Nathan Kanstan qui nous dit Curry pourrait bénéficier du narratif de l'année dernière aussi si jamais les Warriors sont top 4. Ah ouais, Warriors top 4, il est le MVP. Je pense que là, c'est...
Oui, ouais, c'est vrai qu'il y a des chances.
Il l'a direct. Ouais. Ouais. Du coup, ça peut expliquer sa cote qui il est quand même dans le top 5. Ça peut l'expliquer parce que si oui, tu vois les Warriors à 50 victoires, que tu imagines... une NBA où personne n'a vraiment écrasé tout à plus de 60, bah oui, Curry sera probablement légitime.
Ouais, parce qu'il parle de... Enfin, parce qu'il y avait plus de chances au départ que la saison se finisse mal pour eux que qu'ils en soient là, quoi.
Exactement.
Puisque tu as une notion aussi de défier le pronostic. Défier le pronostic.
sais, tu pensais à l'expression américaine dans ta
tête.
Ouais,
c'est ça.
je l'ai vu. Ouais. Du coup, Tom, on va peut-être continuer, mais ouais, Luca, c'est comme tu l'as dit, c'est le successeur, mais le bilan collectif paraît compliqué en fait.
Avec qui, surtout avec qui. Après, tu peux te dire aussi dans un sens que tu peux te dire dans un cas qu'ils sont dans la Southwest et qu'en fait, dans la Southwest, ben c'est la meilleure équipe. Et les équipes qui sont en dessous, il y a, enfin, c'est plus la Southwest du milieu des années 2010, tu vois. Au final, tu vois, t'as Dallas, t'as
Houston en reconstruction,
t'as les Pelicans, t'as Memphis.
Les Grizzlies sont une jeune équipe qui progresse, mais ça reste jeune. Les Spurs entament une transition et les Pels, c'est pas encore une équipe qui compte sur la carte NBA. Donc ouais,
eux, c'est une équipe qui peut rafler pas mal de victoires du coup dans la division. Et tu peux dire que ça peut suffire, entre guillemets, à faire la différence entre peut-être 5-6 et peut-être top 4. Et puis, tu vois, avec les changements qu'ils ont fait cette année, ils sont vraiment allés sur, entre guillemets, le tout pour l'attaque.
Alors, parce que j'ai l'impression que d'année, c'est peut-être l'expérience, la bouteille, mais au fil des années, au début, pour chaque MVP, j'avais une idée précise. Et là, d'année en année, c'est plutôt une course à l'élimination qu'un choix vraiment. Après, est-ce que c'est pas un peu ça, déjà, le MVP? Tu vois, moi, là, tu me demandes de mettre de l'argent. Je pense que je mets peut-être Giannis, hein, encore une fois. Hein.
Mais tu vois, de point de vue narratif, tu penses que peut-être que tu vois le fait d'avoir fait ce qu'il a fait en finale NBA, qu'on lui redonnera la légitimité de la saison régulière?
Alors, c'est peut-être totalement faux ce que je vais dire, mais j'ai l'impression qu'au fil du temps, on s'éloigne de plus en plus. Alors, j'exclus Russell Westbrook. J'ai l'impression qu'on s'éloigne de plus en plus du narratif. Parce que le principal argument contre le doublé de Giannis, défenseur de l'année, MVP, c'était déjà bon le fait que ça soit rarissime de faire ça, et puis aussi le narratif qui serait pas vraiment de son côté, l'histoire qui serait pas de son côté, le récit qui ne serait pas de son côté. Bah là, il a eu les deux.
Ouais, il a eu les deux, et c'est juste qu'il a pas fait le triplé parce qu'ils se sont dit pour faire le triplé. Enfin, moi, ce qui m'avait choqué, c'est que on l'avait éliminé en début de saison de la course triplé par rapport à ce qu'il avait fait en playoff. Après, ouais. Il peut y avoir un dark horse, tu vois, à la Jimmy Butler. Hein. Tu vois, le Heat, on n'en a pas parlé. Le Heat, c'est peut-être une équipe qui peut superformer et on va penser à Jimmy Butler.
Après, peut-être qu'on est arrivé à... Parce qu'on aime bien Nikola Jokic, mais personne ne le donnait dans le titre MVP, dans les favoris MVP. Peut-être qu'on est rentré dans une ère où les MVP, peut-être que le bilan aura moins d'importance et qu'on ira chercher d'autres joueurs. Je ne sais pas, mais cette année-là, tu vois... KD, quand je vois deux joueurs de la même équipe dans le top 12 MVP, déjà de base, je me dis problème. Enfin, t'es pas censé avoir deux joueurs si haut. Puis alors, si vous voulez vraiment perdre votre argent, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Julius Randle aux alentours de la 20e place.
Même Anthony Davis, hein, pour le MVP, j'y crois pas du tout.
Anthony Davis, il est 13e. Ouais. Russell Westbrook est 15e. Et c'était encore une fois... Nate Duncanstan qui nous disait Russell Westbrook, le fait qu'il soit troisième option, ça ne le met pas hors course d'emblée. Si, hein, je suis complètement d'accord.
Après, on ne sait pas s'il est troisième option, hein, parce que c'est lui qui a la balle. Hein. Faut lui enlever la balle des mains pour qu'il soit pas option.
Waouh.
Mais attends, c'est pas LeBron qui va remonter le ballon, et Russell Westbrook va aller se mettre quelque part sur le terrain. Je pense que c'est Russell Westbrook qui va remonter le ballon. Donc après, c'est lui qui décide.
Anthony Edwards dans le top. Non, mais c'est. Qui fait ça? Mais qui fait ça? Sérieux? J'étais pas. Tom, tu m'avais envoyé. On s'était envoyé le lien. J'étais pas allé si loin, en fait. Mais là, je vois. Ah. Bref, on va pas passer. Tu m'as cité Jimmy Butler. Alors, je te ferai noter, Tom, que Zion Williamson et Ja Morant sont devant Jimmy Butler. D'après Vegas.
Ah ouais? D'après Vegas pour le MVP.
Ouais. Zion, ça n'a. Franchement, faut arrêter les frères. Hein. Franchement, c'est n'importe quoi. Enfin, Zion, il est pas loin de Donovan Mitchell, hein, pour le MVP, tu vois.
Incroyable.
Le manque de respect est quand même incroyable. Et Pascal Siakam est aussi très haut. Bon, là, vu comment on parle, Tom, c'est le moment qui nous indique qu'on va tranquillement filer vers la fin de l'épisode. Mais effectivement, la Melo Ball, pourquoi pas, à plus 15 000. Bon, ça, c'est la façon dont on parle avec les cotes. Ouais. Saison pas facile pour le ouais. pour le MVP.
Ouais, c'est vrai. Après, peut-être que tu vois, ce qui peut peut-être nuancer le point de vue bilan qu'on a apporté, mais en fait, c'est que peut-être que tu vois, Vegas voit les équipes tellement proches qu'au final, tu vois, le bilan sera tellement.
Pas un facteur déterminant.
Plus de différence que, au final, le bilan, même si tu es quatrième, mais qu'il n'y a que trois wins d'écart avec, par exemple, le premier, au final, je ne dis pas que les gens vont plus s'intéresser au net rating, mais ça va peut-être permettre de nuancer vraiment l'écart, tu vois. Entre les, mmh. entre les équipes, puisque au final, 2-3 wins sur 82, c'est pas énorme, quoi.
Mmh. Puis on voit que les votants sont un petit peu moins. Maintenant, ils sont moins arrêtés sur certains critères qu'on aurait pu juger un petit peu secondaires ou pas objectifs. Enfin, avant, 2 victoires, ça comptait. Enfin, tu vois, si tu refais l'histoire, tu vois bien qu'il y a des joueurs. En tout cas, le fait d'être dans les 4 meilleures équipes semblait vraiment être un argument déterminant, ouais. là où ça évolue peut-être. Après, à noter, on va conclure là-dessus, Tom, en remerciant tous les gens qui nous ont écoutés en live et ceux qui nous écoutent en replay. Rappelez que là, on est sur les cotes, sur les odds, comme on dit, ouais. de fin août. Oui. D'ici au début de la saison, ça risque de bouger. Alors, ça ne va pas prendre 10 victoires ou 10 défaites, mais... tu peux, enfin, c'est l'adaptation des cotes. Hein. Si d'ici à 4 ou 5 semaines, tout le monde met l'argent sur le under des Warriors, il va descendre.
Il va descendre.
Très bien.
C'est exactement ça, il va descendre.
Ça va descendre très vite. Moi, je pense que les Bulls vont monter aussi. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une hype Bulls qui se crée. Alors, on n'a pas le droit de parler des Bulls sans notre supporter des Bulls, Adrien. Ouais. Donc, on s'est promis de pas en parler et on va en parler quand il sera là. Parce que les fans des Bulls nous font comprendre que, on ne parle pas assez de nous. Ouais. Donc, on parlera de vous. Alors que, encore une fois, ce ne sont pas les moins bien lotis. Hein. Les fans des Pacers, on a parlé d'eux une fois ou deux en cinq ans. Ouais. Et je pense que la palme revient probablement aux Spurs.
Ouais, je dirais Spurs, Memphis, OKC. OKC, on n'en parle quasiment plus maintenant.
C'est vrai. C'est de la faute de Pierre qu'on salue.
Et Constant.
Ouais, mais on parle pas beaucoup des Pistons non plus, toi.
Ah, mais ça, c'est Ilias. Hein. Faut attendre le Pierre Ilias.
Puis il faut surtout attendre qu'il fasse des choses. Non, je rigole. Ouais. Je rigole. Là, c'était pour Ilias. Très bien. Eh bien, du coup, on remercie tous ceux qui nous ont écoutés du coup sur YouTube. Merci de vos commentaires. Merci à George Kittle, Tyrone Lowe, Nate Duncan, Stan, qui est quand même un... Tom est abonné au podcast de Nate Duncan. Pour ceux qui n'ont pas compris la référence, c'est un podcasteur NBA assez célèbre qui... créer un podcast quotidien avec Danny Leroux et qui malheureusement est maintenant payant. Et malheureusement, je ne peux pas m'abonner à tout, j'ai déjà Prime Vidéo. Passons. Alors du coup...
les supporters de l'OM.
Supporters de l'OM, t'es obligé. Aucune mention à Kate Cunningham, ce podcast perd en qualité. Ouais. Commentaire d'Ilias. Donc forcément, on l'a réveillé. Du coup, on salue toute l'équipe. On vous souhaite un très bon dimanche. Nous, on va se retrouver très vite. Le mois de septembre va bientôt commencer. Et c'est surtout le mois du DH20, le mois des previews. Donc, ça va être très, très chargé. On vous remercie de nous avoir écoutés.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.